Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Eddie Claude Ninina Hatzgwe.
Vous êtes bien sûr la radio Nzamba Gatekaka, oui, voici les titres de l'actualité de ce 22 mars 2024. La mise en délibéré du dossier en rapport avec l'attaque du camp de Mukoni dans la province de Muyinga en 2017 vient de passer plus de 4 mois par manque de copie de jugement selon la Cour suprême. Les détenus concernés n'en reviennent pas, ils dénoncent une manière de les maintenir en prison. Et puis le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau, un produit abondant mais mal exploité au Burundi, déplore l'ONG locale Parsem. Nous irons d'aller au camp des réfugiés de Rusena en RDC, où un réfugié du nom d'Olivier Ilanzi subit des menaces de la part de l'administrateur du camp. Il l'accuse de collaborer de façon malsaine avec une ancienne représentante des réfugiés récemment démis de ses fonctions. Accusation balayée d'un revers de la main par les réfugiés. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les développements.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Bienvenue encore une fois dans ce journal. Après plus de 4 mois de mise en délibéré du pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême dans le dossier des détenus accusés d'avoir participé à l'attaque du camp militaire de Mukoni dans la province de Muyinga en 2017, la Cour a informé les requérants qu'il manque des copies des jugements précédents pour statuer sur le cas. Cette information inquiète les détenus. Ils affirment pourtant avoir fourni toutes les copies lors de leur pourvoi en cassation. Ils dénoncent des manœuvres dilatoires des instances de justice pour les maintenir en détention. Les précisions avec mon fils Nyongé.
Le pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême a été introduit en février 2018 après la notification du jugement rendu par la Cour d'appel de Ngozi qui était en procédure d'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Muyinga. Les détenus et les avocats de la défense ont informé le tribunal que les accusations du ministère public découlaient des avis obtenus sous horrible torture. Ces tortures ont eu pour conséquence que les détenus, lors du premier jugement, n'étaient même pas en mesure de se tenir debout devant la barre. Et dans certains cas, ils ont plaidé à genoux et d'autres ventre à terre. Ils affirment que lors de leur pourvoi en cassation devant la Cour suprême, le dossier était complet. Ils ne comprennent pas donc pourquoi la Cour indique maintenant qu'elle ne peut pas statuer sur le cas faute de copie de jugement antérieur. Ces détenus perçoivent pris toutes ces décisions comme une manœuvre visant à prolonger la détention. La prolongation de la détention de ces prisonniers suscite de vives inquiétudes parmi les membres de leur famille, d'autant plus qu'ils sont détenus dans différentes maisons d'arrêt. La demande des copies manquantes a été justifiée par l'article 122 de la loi régissant la Cour suprême. Suite à toutes ces inquiétudes des proches de détenus, la rédaction de la radio Nzamba Gatekaka n'a pas encore eu la réaction d'Agnès Bangi-Tchenge, porte-parole de la Cour suprême.
Merci, bon fils Nyongere. Les travailleurs regroupés au sein des syndicats du secteur des institutions publiques à statut spécial demande l'exécution sans délai du décret présidentiel du 1er septembre 2023 portant modalités pratiques de levée et harmonisation du mode d'avancement des grades. Nivigira Evariste, le secrétaire général du syndicat du personnel de l'Institut national des statistiques, parle au nom de ces organisations et dit ne pas comprendre les motifs de cette lenteur. Il s'exprimait dans un point de presse de ce vendredi. Suivez-le.
La mesure injuste et illégale du gel des annas, prime et indemnité conjoncturelle, continue jusqu'ici pour certaines institutions malgré la mise en place du décret numéro 100/193 du 1er septembre 2023 portant modalités pratiques de levée du gel des avancements et harmonisation du mode d'avancement dans les institutions publiques à statut spécial. Un décret qui a été ordonné par la loi budgétaire année 2023-2024. Après plus de 8 ans de frustration et de mécontentement, le travail des institutions publiques à statut spécial, fatigué des conséquences de la mesure de jet des annales, primaires et autres indemnités conjoncturelles, constate avec regret une injustice notoire des deux poids deux mesures, où d'une part, le gouvernement a dégelé l'avancement de carrière pour la catégorie des fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires, et d'autre part, le décret numéro 193 du 1er septembre 2023 est appliqué dans certaines institutions alors que les autres ne sont vus empêchés de l'appliquer. Une situation ayant pour but de diviser et de semer la confusion au sein des travailleurs longtemps frappés par la mesure. En date du 3 janvier 2024, le Conseil des ministres s'est réuni et adopté le projet de décret portant harmonisation du mode d'avancement en grade, des primes, des indemnités, des bonifications des titres dans les institutions publiques à statut spécial, mais jusqu'ici un décret n'est pas encore sorti, il y a plus de 2 mois, alors que ce dernier fait partie des prétextes de la non-application du décret numéro 193 du 1er septembre 2023, selon le ministre en charge des Finances. Les deux décrets sont différents. En réalité, la mise en application de l'un ne devrait pas entraver la mise en application de l'autre. Les institutions des représentants du peuple burundais, telles que l'Assemblée nationale et le Sénat, ont elles aussi prôné et recommandé l'application du décret 193 du 1er septembre 2023 lors des séances de questions orales à l'endroit du ministre en charge des Finances. Les réponses que le ministre ayant les finances dans ses attributions a données n'étaient que des paroles dilatoires ayant pour but de pérenniser les travailleurs affectés par la mesure du jet des annales, primes et autres indemnités dans une situation de misère. Face à cette situation pénible que vivent les travailleurs des institutions publiques à statut spécial, le syndicat des travailleurs de ce secteur demande avec insistance au gouvernement ce qui suit. 1. Lever le silence et le flou qui règnent autour de la question de la non-application du décret numéro 193 du 1er septembre 2023 portant modalité pratique de levée de jet des annales et à l'harmonisation du mode d'avancement dans les institutions publiques à statut spécial. 2. Rétablir dans leurs droits le reste des institutions publiques à statut spécial qui ont été oubliées. 3. Sortir le décret portant à harmonisation du mode d'avancement en grade, des primes, des indemnités et des bonifications des titres dans les institutions publiques à statut spécial qui traînent alors que son projet a été analysé et adopté au Conseil des ministres il y a plus de 2 mois.
Et dans le domaine de l'économie, le parti Kodebu Iragi Gandada exprime son inquiétude par rapport à la dévalorisation du franc burundais. Actuellement, en dollars américains sont négociés à environ 5 500 francs burundais sur le marché noir. Selon Kefani Wizi, président du parti Kodebu, les autorités burundaises doivent reconnaître ouvertement que le pays traverse une crise économique grave. Il est nécessaire qu'elles acceptent de respecter les conditions posées par le pays donateur, notamment en matière de bonne gouvernance, du déverrouillage de l'espace politique, du respect des droits de l'homme, afin d'éviter un effondrement économique du pays. Suivez Kefani Wizi.
Le parti Kodebu exhorte les autorités burundaises d'avouer que le Burundi se dirige vers la crise économique et que par voie de conséquence, il faut qu'ils acceptent les conditionnalités fixées par les partenaires techniques et financiers de notre pays, à l'occurrence le respect des droits humains, l'ouverture de l'espace politique, la promotion de la bonne gouvernance administrative et financière et autres, afin que ces derniers continuent à appuyer le Burundi avant qu'on assiste au pire. Nous disons cela parce que nous assistons à une dépréciation galopante de la monnaie burundaise, de telle sorte que un dollar s'échange aux environs de 5 500 francs burundais sur le marché noir, ce qui est presque le double du taux de change à la banque. Il faudra noter que avant 2015, cette différence du taux de change du dollar en francs burundais au marché noir et au taux officiel était moins de 100 francs burundais. Nous saisissons cette occasion pour demander également aux autorités burundaises de ne plus communiquer à la population burundaise qu'elle n'a pas besoin ou qu'elle n'utilise pas les devises étrangères, notamment les dollars et autres, parce que les importations que nous faisons ne se font pas à francs burundais et la dépréciation de la monnaie burundaise provoque la flambée des prix des denrées de première nécessité, notamment les denrées alimentaires, ce qui pousse la population à ne plus supporter la vie chère du jour au lendemain.
Inzamba.
Dans la suite de ce journal, le Burundi dispose d'un potentiel hydrographique suffisant mais qui est mal exploité. C'est un constat amer de l'ONG locale Parsem. Elle fait ce constat au moment où le monde entier célèbre ce 22 mars, la journée internationale de l'eau. Faustin Likumana, directeur national de la Parsem, rappelle que l'eau est un produit essentiel pour la vie de l'homme. On l'écoute.
Au Burundi, on constate que nous sommes nantis au niveau des ressources naturelles en eau. Il peut d'abord 9 mois sur 12, au niveau des précipitations, nous avons des précipitations suffisantes, nous avons des rivières, nous avons des lacs, lacs Tanganyika, des lacs aux oiseaux, il y a l'eau des fontaines. Vraiment, le Burundi dispose des ressources naturelles à eau suffisantes. Mais nous constatons des contradictions. Le paradoxe de l'eau au Burundi. Précipitations suffisantes, mais en fait des rendements agricoles. Parfois des sécheresses, mais on est incapable d'asseoir une stratégie de pouvoir irriguer nos cultures. Vous constatez des fois à Kirundo ce qui se passe quand il y a la sécheresse. Et l'incapacité, par exemple, de drainer l'eau ici, à Mhanda avec le barrage Kajeke pour la culture du riz. Le potentiel hydrographique, il est là, mais on n'a pas suffisamment d'énergie. Les experts ont constaté que le Burundi dispose d'un potentiel hydroélectrique de 1700 MW suite à la consistance du nombre de rivières dans le pays. Mais avec 300 MW directement commercialisables. Mais actuellement, on est à moins de 60 MW. Le lac Tanganyika, sa biodiversité n'est pas bien exploitée. Nous avons lac Tanganyika, par exemple, ici à Mille de Bujumbura, mais l'eau potable reste en défi dans plusieurs quartiers de Bujumbura, même à l'intérieur du pays. On ressent beaucoup de cas où il y a une pénurie d'eau potable parfois inquiétante et qui fait le lit même des maladies diarrhéiques, des maladies des mains sales, le choléra par exemple, des maladies des enfants de moins de 5 ans. L'eau est suffisante, mais on constate aussi qu'elle constitue actuellement une menace. Le débordement du lac Tanganyika. Les inondations liées aux pluies diluviennes, suite à mauvaise canalisation de l'eau à mairie de Bujumbura par exemple. Faible capacité de traitement des eaux usées qui continuent à polluer le lac Tanganyika. L'érosion, les précipitations, la pluie à l'intérieur du pays cause perte de bonnes terres suite à l'érosion.
Faustin Likumana appelle le gouvernement à redoubler d'efforts dans la coordination de la gestion de l'eau pour qu'elle soit plus rentable. Il demande aussi de réinstaurer le ministère de l'eau et de l'environnement. On écoute encore une fois Faustin Likumana.
On a le code de l'eau, on a une politique nationale de l'eau qu'il faut actualiser. Parce que nous prenons qu'il y ait aussi un ministère comme le ministère de l'eau, de l'environnement, et pour vraiment asseoir une stratégie et suivre en permanence sa mise en application. Il faut aussi une superstructure des ministères pour coordonner la gestion de l'eau et pour la rentabiliser comme une source naturelle importante. Il faut aussi une planification opérationnelle qui oriente la gestion du secteur d'eau. Il est regrettable, par exemple, que le dernier plan stratégique en mairie de Bujumbura, qui essaie de gérer l'eau en tenant compte de la croissance permanente de la population à mairie de Bujumbura, date de 2005. Donc, le plan de 1985 à 2005. Après, il n'y a eu d'autres plans pour orienter la gestion de l'eau à mairie de Bujumbura, en tenant compte de la croissance de la population urbaine. Comme Parsem constate que le secteur de l'eau, l'assainissement et l'hygiène constituent l'objectif numéro 18 de la vision 2040-2060, on voudrait qu'à travers cette vision, le gouvernement augmente les investissements substantiels pour développer ce secteur qui est crucial dans la vie de notre pays.
Et puis, des menaces et intimidations sont proférées à l'endroit d'un réfugié burundais du camp de Lusenda, République démocratique du Congo. Ces menaces et intimidations sont faites par l'administrateur du camp, Didier Mangala. Cette autorité accuse Olivier Iranzi Numangende de collaborer avec l'ex-présidente du comité des réfugiés du camp, récemment destitué. une destitution pourtant jugée injuste par certains réfugiés. Plus de détails avec Joséphine Jones Ngundiman.
Les intimidations verbales proférées à l'endroit du réfugié burundais Olivier Irandi Mumangende ont commencé depuis la destitution de Madame Mwavita Asamani Samia de la représentation du comité des réfugiés du camp de Lusenda, une destitution qui a eu lieu le 16 de ce mois de mars. L'annonce faite par l'ex-présidente du comité, déclarant une décision injuste et son intention de porter plainte devant la justice, a suscité des soupçons de la part de l'administrateur du camp, Didier Bangala. Ce dernier accuse Olivier Irandi d'être derrière la position de l'ex-présidente et de soutenir ceux qui réclament son retour à la représentation du comité. Dans un enregistrement audio diffusé sur les réseaux sociaux, Didier Bangala s'exprime ainsi.
Olivier, bonjour. Je ne voulais pas que vous puissiez prendre les camps en otage. Les camps là, ce n'est pas votre camp. Lorsque vous étiez absent, on était calme au camp. Vous êtes encore revenu, vous commencez à créer des désordres au camp. La CNR ne veut pas. Ne soyez pas fauteur de troubles au camp. Si tu étais le conseiller à Mwavita, pourquoi ne pas le produire de conseil avant? Vous êtes sûr que Mwavita défend l'intérêt des réfugiés et qui ne peut pas le défendre? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne veux pas de vous. Soyez humble comme Faustin. Soyez humble comme Emmanuel, soyez humble comme Jimmy. Occupe-toi de tes affaires, s'il te plaît. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous faites au camp-là, les réfugiés ne nous informent pas? Les réfugiés nous informent.
Certains des réfugiés demandent au gouvernement congolais et au Haut Commissariat pour les réfugiés de résoudre le problème avant qu'il n'y ait un débordement. Vous saurez que depuis sa destitution, le poste est encore vacant, ce qui inquiète les réfugiés qui ont besoin d'une représentation à laquelle ils adresseront leur doléance.
Et dans le cas des réfugiés burundais d'Onduta en Tanzanie, pour boucler ce journal, le responsable du village 17 de la zone 1 est en cavale depuis ce jeudi. Cela fait suite aux propos qu'il a tenus mettant en lumière les problèmes de sécurité persistants au Burundi lors d'une réunion tenue par les membres du HCR et l'administration en Tanzanie à l'attention des réfugiés burundais de son camp. C'était dans le but de les sensibiliser à retourner au Burundi. Les autres réfugiés pensent que la police tanzanienne est à sa recherche pour l'accuser d'inciter les autres à ne pas rentrer. Ces réfugiés demandent au HCR, à la police tanzanienne, de laisser les réfugiés tranquilles et les laisser décider de leur retour volontaire. Suivez un des réfugiés du camp d'Onduta.
Le chef du village, en fait, a posé une question logique que tout le monde se pose ici concernant ces sensibilisations. Quand il nous disait qu'au Burundi, il y a paix et la sécurité, qu'il faut rentrer au pays et que... Il a posé la question de savoir si ces gens-là qui nous sensibilisent sont au courant de ce qui se passe au pays, qui sont au courant des attaques de Redetawara, à Bulinga et à Gatumba. La réponse a été brutale. C'est la réponse de la dame qui est chargée de rapatriement, elle s'appelle Sabine, elle travaille au HCR. Elle a répondu que, un peu partout au monde, dans presque tous les pays, il y a ce genre d'attaque, que même aux États-Unis, que même ici en Tanzanie, des malfaiteurs attaquent des gens paisibles qui sont chez eux, et qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas la sécurité. Que même aux États-Unis, de telles attaques existent. Et le président de la République, dans ses discours, il ne cesse pas de dire qu'il y a des rebelles qui sont financés et entraînés par le Rwanda. Mais le HCR et les autorités d'ici, eux, ils ignorent tout ça. Après cette séance de sensibilisation, c'est de qui on ne dort pas plus chez lui. Il vit en clandestinité depuis hier. La police, les soupçons, le traquent comme si c'était un malfaiteur. Ils ont menacé de démolir sa maison aussi, et ils ne se rendent pas à la police. Après tout ce que nous avons observé aujourd'hui, nous demandons à faire, au plus haut niveau, de donner des ordres à leurs employés qui sont à Tanzanie, de ne pas jouer la carte des autorités du monde et de la Tanzanie et de se comporter comme des agents du HCR. Surtout de nous protéger, parce que nous sommes là comme des enfants qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas quelqu'un qui peut les protéger. C'est une question que tout le monde se pose. Pourquoi ils nous poussent à rentrer? Pourquoi ils nous terrorisent? Alors qu'ils savent la réalité de ce qui se passe chez nous.
Eh bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.